Mais finalement, même en mots, en texte, en littérature, on trouve aussi du dit-raconte, comme vous dites, ou du racont-montre. Alors par exemple, hein, lire cette lampe-là, virgule mal réglée, point, sur une page, avec du blanc tout autour. Ça fera peut-être pas le même effet qu'un plan fixe sur une lampe mal réglée, qui soit d'une seconde 10 minutes, ni que lire une page ou 30 remplie de cette même phrase, réitérée en bloc texte, ou dire encore, lampe, point virgule, luminosité imparfaite, point, ou encore, la lumière de la lampe insistée, virgule, tamisée, point. Mais dans le plan comme dans la phrase, il y aura bien un dire qui ouvre sur quelque chose d'autre que lui-même, n'est-ce pas ? J'ai un peu l'impression que vous mélangez, que vous confondez, hein, c'est peut-être délibéré. Narration, récit, énoncé, narration, énoncé, montrer, dire, décrire, raconter.
Ben, quelle que soit son échelle ou son angle de prise de vue, narrer, énoncer, décrire, le geste agit en embrayeur de récit. Énoncer à l'imparfait, c'est narrer. Décrire ou désigner au présent de l'indicatif, c'est zoomer sur une situation ou un état. Il y aurait plein d'autres exemples de cet étirement, de cet épaississement de la limite. Est-ce en soi suffisant pour faire histoire ou fiction ? Non, probablement pas. Mais ça l'est pour manifester une puissance d'histoire ou de fiction, une présence virtuelle de ces choses. Tout le problème est de conserver cette puissance dans la fiction, dans l'histoire, une fois déployée. D'où que l'indistinction que vous relevez dans mon expression est délibérée, je crois. Il s'agit de maintenir de la matière dans l'histoire. Et chez tous les grands cinéastes, le plan séquence est une façon très puissante de faire ça. Histoire à même la matière. Vers quoi s'oriente ma tête, se dirigent mes yeux ou s'ouvrent mes oreilles quand je suis au cinéma ? Un écran. C'est-à-dire toujours déjà, toujours encore du cadrage en train d'avoir lieu. C'est lui le métamotif. Ici passent toutes sortes de choses qui redistribuent ma perception, l'ajustent au fur et à mesure. Mais c'est bien vers ça que mon corps se tourne et demeure. Je pars du corps littéral de ma perception des films, la vue d'une image, une image vue, un cadre. L'interstice entre cadre et récit, cette zone paradoxale, car faite d'un temps pas forcément chronologique, c'est le plan séquence, l'intensité pure qu'il est. C'est ça ce que je viens y chercher.
On a compris finalement que c'est plus une littérature du plan séquence que du montage qui en tient.
C'est vrai, mais il y a le montage aussi.
Alors peut-être, mais...
Bah oui, mais le formalisme s'y affirme plus ostensiblement, et ça peut être super utile. De Manhattan Transfert à qui on voudra, il y a mille façons différentes.
Vous aimez bien ce chiffre, on dirait, mille façons différentes.
Ça détend. Il détend, je trouve, ce chiffre. Il dézoome très largement. L'horizon surgit tout d'un coup quand on l'entend, quand on le prononce. Hop. En un rien de temps, ce qu'on dit n'en est plus qu'une toute petite partie. Ça fait un bien fou de n'être qu'une petite partie.
Oui, bon, alors je disais que...
Mais oui, mais le plan séquence, absolument, vous avez raison. Les Japonais, les Italiens, les Françaises aussi. Ackerman, par exemple. On ne sait plus très bien qu'il a inventé à ce degré de puissance le plan séquence.
Attendez, je disais quoi, alors ?
Des histoires de montage, je crois.
Ah oui, non, alors, vous avez mentionné le son à plusieurs reprises, les sons comme un corps sémiotique dans un autre, qui serait le visuel, si j'ai bien compris, ou qui traverserait le visuel, qui serait fait de bruit, de musique ou de dialogue plus ou moins diégétique. Comment est-ce qu'on raccorde ça à votre motif du dit-raconte ou du racont-montre, dont je ne suis pas certain d'avoir compris si on doit les distinguer d'ailleurs, mais passons.
Au cinéma, le son n'est jamais adjonction à l'image. Il la constitue autant que la matière visuelle, strictement dit. À travers toutes sortes de rapports et d'opérations dont Deleuze a dit l'essentiel, je crois. Voir, c'est entendre au cinéma, fût son muet. Et entendre, c'est voir, fût son écran noir. Même chose en littérature, à échelle de lettres cette fois. Gagner en visibilité suppose de gagner en audibilité. Tant il est vrai que donner à lire, c'est toujours faire entendre. Le racont-montre ou le dit-raconte qu'un film peut provoquer reprend donc l'image filmique tout entière, par l'ensemble de ses polarités visuelles comme sonores. Et ils font ça de mille façons différentes, oui. L'essentiel, c'est qu'on ne sonorise jamais un texte de l'extérieur, encore moins en poésie sonore. D'abord parce qu'il est toujours le premier responsable de sa sonorité. Il n'y a aucune poésie sonore qui vaille sans un texte qui tienne micro fermé, amplié. Et puis parce que les éventuelles amplifications, montages ou orchestrations qui s'y congiennent appellent une nouvelle écriture, composite, à un ou à plusieurs sur scène ou en studio. L'intérêt du son cinéma pour la littérature, c'est que musique, bruit, voix y forment comme un tout homme hétérogène. Tout y est sans cesse susceptible de se factoriser à nouveau frais. Ça doit pouvoir sonner comme un perchiste au travail, un bonimenteur en 95, une bande originale parlée, une explication de plan avant tournage, la conférence d'un cinéphile, un sous-titrage, ou en plein défilement, etc.
Attendez, je ne suis plus là, ça se mélange trop.
Tendant le sac à main.
Changement de bobine. Je crois qu'avec les disjonctions, il faut voir, si vous voulez, qu'elles sont toujours plus directement à même de créer des rapports, donc de la perception profonde. Et le cinéma est par excellence cet art du rapport. car en plus d'être fonctionnel, le rapport fait immédiatement motif au cinéma. L'avant-plan sémiotique est toujours déjà de l'arrière-plan narratif, et réciproquement.
Alors, vous avez, j'ai l'impression, hein, quand même...